franceinter.fr.
Allons badiner au jardin, c'est la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour, c'est joli comme expression, badiner.
Oui, c'est ça, hein, bah c'est mon talent à moi.
Eh bien, je vois, mais je vois.
Alors, pour la sortie du jour, Alain, vous avez choisi le parc Jouvet. C'est dans le centre-ville de Valence, dans la Drôme.
Eh oui, une ville traversée par la mythique Nationale 7 et qui, je cite Charles Trenet, fait de Paris un petit faubourg de Valence. Valence, préfecture, vous venez de le dire, de la Drôme, qui est une ville de 65 000 habitants et qui possède ce petit joyau, le parc Jouvet.
Et c'est un parc qui est inscrit depuis 1942 à l'inventaire des monuments naturels et sites à caractère artistique, Quézaco.
Il est aussi, Quézaco, ce sont des distinctions qui mettent justement en avant les parcs qui méritent vraiment d'être aidés et soutenus. Il est aussi classé jardin remarquable par le ministère de la Culture, il l'est je crois depuis 2006, et il l'est pour son intérêt historique et botanique, et pour son exceptionnelle perspective sur le massif central, et en particulier les monts du Vivarais qui culminent, à 1754 mètres de hauteur. Ce jardin est surtout intéressant, vous vous en doutez, pour son style. Un mélange subtil de tracé à la française et paysager, mais aussi pour ses arbres.
Alors oui, vous le dites, hein, on trouve de magnifiques hêtres pourpres, des cèdres bleus et des cyprès chauves.
Et oui, les cyprès chauves qui s'appellent ainsi, car je vous rappelle que ce sont des conifères qui perdent leurs feuilles à l'automne.
Et on trouve aussi,
soyez pas désagréables. Alors, on trouve aussi des magnolias qui sont actuellement en fleurs. Je parle des magnolias grandiflora, des micocouliers, des gingko biloba, marronniers à fleurs doubles, des platanes, des tulipiers de Virginie ou encore un orme de Sibérie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'histoire de ce jardin. À la fin du 19e siècle, il est prévu de construire à Valence, ou plutôt de détruire, une prairie et des petits potagers pour construire une gare. Mais les habitants, voyez-vous, ne sont pas très enthousiastes, car ce qu'ils aimeraient, eux, c'est un jardin. Et les élus décident alors de construire un ensemble de petites maisons.
Et les habitants sont pas très enthousiastes. Hein. Ce qu'ils aimeraient, eux, c'est vraiment, vous l'avez dit,
un jardin. Oui, les élus sont contrariés, car eux, ce qu'ils veulent, c'est construire. Marrant, aujourd'hui encore, d'ailleurs, beaucoup d'élus aiment construire. C'est assez drôle, d'ailleurs. Alors, le projet suivant, après donc les petites maisons, c'est une école, un lycée, pour être exact. Personne ne pourra forcément s'opposer à la construction d'un bâtiment qui sert l'intérêt public.
Mais, oh là là, les habitants ne sont toujours pas enthousiastes qu'ils aimeraient, donc...
Eh bien oui. Donc, c'est répétitif. Alors, intervient un homme, Théodore Jouvet. Celui-ci est un négociant en vin de Bordeaux. Il est amoureux de sa région et il veut que soit préservée la vue sur le Rhône et les fameux monts du Vivarais. Alors, Théodore Jouvet, qui a donné son nom au parc, bien évidemment, achète en 1902 le terrain pour l'offrir à la ville. L'homme est généreux et il est riche. Mieux, il demande au plus grand paysagiste de l'époque d'intervenir. Et lorsque le parc est enfin terminé, nous sommes en 1905, c'est le président de la République en personne. Rappelez-moi qui était président de la République en 1905.
Eh bien, rappelez-le vous-même.
Eh bien, c'était pourtant marqué sur la petite fiche. Émile Loubet, qui vient l'inaugurer.
Alors, pour ceux... Je vous écoute.
Oui, passionnément d'ailleurs. Alors, pour ceux qui aiment les chiffres, et vous en êtes, sachez que le parc Théodore Jouvet couvre une surface d'un peu plus de 7 hectares. Est planté de...
C'est immense.
Ah oui, c'est grand, oui. C'est pas le plus grand. C'est le troisième plus grand de la ville de Valence, mais je crois que c'est le plus beau. Il est planté de 700 arbres et tous les ans, il est orné, fleuri par des milliers de fleurs par l'équipe de jardiniers enthousiastes qui s'occupe de ce lieu. Et j'en profite, bien sûr, pour les saluer.
Alors, on a des questions d'auditeurs, mon cher Alain. Donc, on va parler buis. Claude nous pose cette question. Les feuilles de mes buis, pas de chance, présentent sur leur face comme des petits traits blancs, puis elles jaunissent et tombent. Que faire? Moi, je dis, ils sont tout pourris, il est mort.
Mais non, justement, on se calme. Il est vrai que les buis, actuellement, sont quelque peu préoccupés entre la pyrale du buis, qui est une petite chenille qui dévore les feuilles et dont je ne parlerai pas, bien qu'un auditeur m'ait écrit pour me dire pourquoi vous ne parlez jamais de la pyrale du buis. J'ai dû en parler à peu près 200 à 300 fois depuis le début de l'année, donc j'en parle
très régulièrement. Ça, c'est comme la buis bordelaise.
Voilà, tout à fait. Ensuite, il y a également les maladies qui font de gros dégâts sur le buis. Non, là, il s'agit tout simplement d'un petit acarien qu'on appelle le tétranique du buis. Et effectivement, quand on regarde les feuilles, il y a des petits points, voire des traits blancs qui sont particuliers. Ensuite, les feuilles jaunissent et elles tombent. Alors, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, ce serait de traiter, si on n'était pas bio, avec un acaricide, mais mai. Il ne faudra le faire qu'au mois de mai. Vu qu'on est au mois d'août, on ne traite pas. La situation n'est pas dramatique, il faut simplement les surveiller. J'en profite pour rappeler que l'arrosage intégré près des buis leur est néfaste parce qu'on les prive de magnésium qui est dissous, qui s'en va et jaunisse naturellement. J'en profite pour rappeler que tailler des buis trop tôt dans la saison avant la fin des gelées, leur est nuisible. Je rappelle également que la taille des végétaux comme les buis, eh bien, parfois peut les épuiser. La meilleure façon en ce moment, de par les problèmes de pyrales, de maladies et autres soucis, c'est de les laisser tranquilles, de ne pas trop y toucher.
Avec Alain Baraton, le jardin, c'est pas compliqué, on laisse vivre.
Eh bien, non, mais on regarde. Vous savez, la forêt amazonienne est la plus belle forêt du monde. Je ne pense pas qu'il y ait des équipes de jardiniers le matin qui soient chargées de pulvériser les plantes ou de les tailler. De temps en temps, effectivement, il faut laisser faire la nature. Le rôle du jardinier, c'est pas de la contraindre, c'est de l'accompagner. C'est comme un médecin. Le rôle d'un médecin, c'est de vous guérir, mais surtout de vous empêcher de tomber malade. C'est ce que j'essaie de faire, en permettant aux plantes de s'épanouir normalement, d'avoir des conditions optimales de vie, et bien ils développent rarement les maladies.
Qui est trop fort cet Alain. Françoise, mon vieil If, âgé de 60 ans, c'est pas son mari, hein, c'est son If, oui. Perd en nombre ses aiguilles. Puis-je les déposer sur le compost ou les utiliser en paillage sur les massifs?
Deux commentaires sur l'âge. Vous avez dit que c'était pas son mari. Effectivement, 60 ans, ça commence à devenir... J'ai 60 ans, donc je peux me moquer. On n'est plus tout jeune.
La quille, hein.
Et vous remarquerez quand même l'excellent état de conservation.
Oui.
Par contre, pour un If, 60 ans, c'est un gamin. Un gamin.
Ah bon,
les ifs les plus vieux de France atteignent le millénaire. Vous en avez en Normandie dans les cimetières inouïs. Vous avez des ifs de 2000 ans en Angleterre. Donc c'est vraiment des gamins. Alors la question est amusante et judicieuse parce qu'effectivement la dégradation des aiguilles des feuilles d'ifs provoquera l'acidification. Je ne sais pas si le terme se dit, mais ça acidifie la terre. Donc on évitera, si on les utilise comme paillage, de les laisser se dégrader. Donc oui, on peut parfaitement mettre sur le tas de compost des feuilles d'ifs s'il n'y en a pas trop. Oui, on peut utiliser en paillage, mais il ne faudra pas attendre la dégradation pour les retirer. Sinon là, effectivement...
Les aiguilles d'ifs, c'est atroce à enlever, quoi.
C'est très compliqué, bien sûr. Si on a des massifs de rhododendrons et d'azalées, oui, sans aucun problème, bien au contraire. Ça leur fera le plus grand bien, on pourra même les laisser, car en se dégradant, ils contribueront à améliorer la terre dans laquelle vivent les hortensias, les rhododendrons ou les azalées. Mais c'est vrai que c'est tout petit, ça se dégrade très vite, donc attention. Mais ce qui est valable pour les ifs, c'est également pour tous les conifères.
D'accord, ok. Alors Alfred a cette question, si je produis dans mon potager des légumes avec du compost provenant de produits traités par la chimie, mes légumes seront-ils bio? Moi je dis non.
Alors, Alfred, en fait, j'ai fait un raccourci de la lettre qu'il m'a écrit, une longue lettre. Parce qu'il me dit, vous avez expliqué il n'y a pas très longtemps que si on met sur le tas de compost des végétaux toxiques, on pourra toutefois manger des légumes produits avec ce compost parce que la plante, elle, est capable de transformer la toxicité des autres végétaux. C'est vrai. Sauf que les produits chimiques destinés à l'agriculture sont conçus pour être assimilables par le végétal. C'est totalement différent. Le laurier rose, par exemple, est toxique, mais le laurier rose qui se décompose ne va pas contaminer les autres végétaux à côté de lui. Il en est tout autre pour tout ce qui est acaricides, herbicides, engrais, etc., etc. D'autant plus que beaucoup de produits sont conçus pour être absorbés par le végétal et ils font leurs effets de l'intérieur. Donc oui, ou plutôt non, enfin comme vous voulez, mais sachez que, parce que je ne sais plus quelle était la question exacte. Rassurez-vous, simplement, oui, effectivement, utiliser des plantes ayant été pollué par l'industrie sur le tas de compost fera que vos produits du potager ne seront pas bio.
En même temps, on l'avait compris dès le départ, non ?
Oui, mais il est bon parfois de préciser.
Ah ouais ?
Parce qu'effectivement, si vous mettez des lauriers roses en dégradation, ils sont toxiques, mais les plantes que vous mangerez ne seront, elles, pas toxiques.
Mais c'est pas un produit chimique, le laurier rose.
Voilà, vous avez parfaitement compris.
Mmh. Ah. Je vous écoute. J'ai l'air de rien. Je jette les questions comme ça à un moment donné pour pas les... Bon, merci Alain Baraton. C'était La Main Verte. On vous retrouve demain.
À demain, oui.
Avec d'autres questions, notamment sur les tomates, le buis, etc. etc.